Merci. Donc, nous allons continuer cette séance donc, par Alain Ehrenberg. Alors, Alain Ehrenberg, peut-être on peut le présenter, mais peut-être on peut ne pas le présenter. C'était un sociologue extrêmement connu et je le remercie de sa présence. Il a travaillé depuis de nombreuses années sur les questions de psychiatrie et de santé mentale, on va dire ça comme ça. Alors, la manière de le présenter... résume probablement de manière totalement insatisfaisante l'ampleur du travail, mais en tout cas, son rôle ici, dans cette idée de la psychiatrie et les mutations du monde, je pense que la sociologie et les travaux d'Alain Ehrenberg peuvent apporter un éclairage particulier. Je remercie d'être là. Une fois que j'ai dit les choses comme ça, je mets une pression terrible. Donc, je suis sûr que vous allez la supporter sans difficulté.
On va essayer d'être à la hauteur. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vais vous proposer une réflexion sociologique sur les rapports entre handicap, autonomie, capacité aujourd'hui, à travers les transformations de la santé mentale. La santé mentale étant une notion à la fois large et centrale étant donné l'intensité des préoccupations dont elle fait l'objet dans nos sociétés, et c'est en même temps une notion confuse et conflictuelle. Alors, je vais faire un exposé en deux temps. Dans le premier, je demanderai en quoi la santé mentale est une nouvelle donne et en quoi nos manières de vivre en société mettent en relief des problèmes regroupés sous l'appellation santé mentale. Dans un deuxième temps, je prolongerai la réflexion sur la réhabilitation comme système de pratique qui cristallise un nouvel esprit du soin. Alors, premier temps. À un premier niveau, la santé mentale, évidemment, désigne les problèmes de santé mentale proprement dit, y compris psychiatriques, c'est-à-dire les entités pathologiques, dépression, addiction. Elle désigne également les pratiques pour y faire face qu'on regroupe sous le vocable de thérapie. Ça, c'est un premier niveau. Mais à un deuxième niveau, on n'est plus dans le pathologique. Si on se tourne vers des documents comme la Charte d'Ottawa ou les documents de l'OMS, la notion de santé mentale s'élargit au-delà de la pathologie et de la santé vers la socialité humaine. Par exemple, la Charte d'Ottawa précise que, je cite, « la promotion de la santé ne relève pas seulement du secteur de la santé, on est au-delà de la santé, et que son ambition est le bien-être complet de l'individu ». Bien-être complet. Bon, mais l'OMS, quant à elle, précise quelles sont les fonctions du bien-être, pourquoi on se préoccupe du bien-être, c'est-à-dire ce que le bien-être permet de faire. Je cite l'OMS, « la santé mentale est un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté ». Fin de citation. La santé mentale, en se référant à la notion de bien-être, met en relation étroite la santé et la socialité de l'être humain qui apparaissent indissociables. Et dans cette relation santé-socialité, la santé apparaît non comme une fin, mais comme une ressource pour se confronter aux aléas de l'existence, ce que les psychologues appellent la santé mentale positive. Donc, la santé mentale recouvre un territoire protéiforme qui va des pathologies les plus lourdes jusqu'au développement personnel. Et dans ce cadre, la spécificité des pathologies mentales, spécificité dans la morbidité humaine, c'est qu'elles affectent à la fois les idées, les pathologies affectent les idées, le délire par exemple dans la schizophrénie, les émotions, comme l'angoisse, mais aussi les sentiments moraux, comme la honte et la culpabilité. Ce qui veut dire que les symptômes portent sur des aspects fondamentaux de la vie morale et sociale en société, donc. Et encore une fois, dans ce domaine, que l'on regarde les choses du côté pathologique ou du côté positif, santé et socialité sont inséparables. Et donc, on doit considérer que ce que nous, les modernes, nous appelons pathologie mentale ou troubles mentaux, ce sont des troubles fonctionnels de la socialité, que l'appellation désigne des ratés de la socialisation, où sont en jeu des valeurs de civilisation. C'est pourquoi aussi les situations de misère, de précarité, de pauvreté sont des facteurs prépondérants des questions de santé mentale. À partir de là, on peut dire que En un demi-siècle, les entités pathologiques et psychiatriques ont changé de place sociale et médicale. Non seulement les entités ont changé de place sociale et médicale, mais encore les moyens de traitement, psychothérapie et pharmacothérapie, ont connu le même sort. Je veux dire que les problèmes de santé mentale ne sont plus aujourd'hui des problèmes, ne sont plus seulement aujourd'hui des problèmes spécialisés de psychiatrie et de psychologie clinique. Et les moyens de traitement ne sont plus seulement des moyens de se soigner. Pensons à l'usage des antidépresseurs qui aident à tenir ses rôles sociaux plus ou moins bien, etc. Bon. Mais on peut dire que ces maux qui étaient donc auparavant considérés comme des problèmes exclusivement psychiatriques relevant du soin sont aujourd'hui des questions sociales qui traversent toute la société. Par exemple, l'école pour l'enfant, pour l'enfance et l'adolescence, avec des syndromes comme la phobie scolaire, l'hyperactivité, les troubles de des troubles du comportement. Pensons pour l'adulte, le travail et l'emploi, avec le burn-out, le harcèlement ou le stress. Donc, ça veut dire que on a eu affaire à une morbidité qui ne relève plus seulement du domaine particulier de la maladie mentale, mais qui s'étend vers celui plus général de la vie sociale. Et notamment, ça met en lumière un changement majeur concernant le statut même du symptôme, c'est qu'on peut voir que le trouble mental est l'expression d'une difficulté liée à la socialisation. Pensons les troubles de l'attention ou la phobie scolaire qui empêchent l'élève d'apprendre, ou pensons aux critères du fonctionnement social qui deviennent essentiels dans le domaine classique de la psychiatrie, que sont la prise en charge des psychoses. Donc la conséquence, c'est que nombre d'entités pathologiques sont devenues des questions sociales aujourd'hui, tandis que nombre de questions sociales sont abordées au prisme de la psychopathologie. Et c'est pourquoi je crois qu'on peut dire que si les problèmes de maladie mentale représentaient un enjeu médical pour la société, les problèmes de santé mentale, de par leur transversalité, représentent un enjeu total. Ils imprègnent toute la vie sociale. Alors, ces changements tiennent aussi aux transformations de nos manières de vivre, d'agir et de penser en société, qui se sont progressivement instituées à partir du début, du tournant, disons, des années 1970 et une caractéristique ou un effet de ces changements, c'est qu'ils ont mis en avant une dimension émotionnelle dans la vie sociale, qui n'est pas justement sans rapport avec les questions de santé mentale, une dimension émotionnelle dans la vie sociale qui était marginale auparavant. Alors, donc ces changements, ces valorisations fortes de la liberté de choix, de la propriété de soi, de l'initiative individuelle, l'idée c'est qu'il faut mieux être proactif aujourd'hui que réactif, de l'innovation, de la créativité, de la transformation personnelle et des capacités à changer. En gros, pour ne pas rentrer dans les détails, il faut noter que toutes ces idées et valeurs, ces idées-valeurs, placent l'accent sur la capacité à agir de l'individu. Donc, nous sommes entrés, à partir de cette période, dans un individualisme de capacité imprégné par les idées, les valeurs et les normes de l'autonomie. Et la santé mentale s'est développée dans ce contexte de changement de nos manières d'agir et de penser. Et ce changement est un changement de l'équation personnelle en société. Je vais illustrer ce changement, donc qui me permet de mettre en avant la dimension émotionnelle que je suis en train d'évoquer. Je vais illustrer ce changement par le passage, par le monde du travail et de l'entreprise et le passage du travail divisé au travail flexible. Dans le travail divisé, c'est-à-dire de type organisation taylorienne et fordienne de la société industrielle, il s'agissait essentiellement de coordonner l'action à partir d'un centre organisateur et ce qui est attendu du personnel, des salariés, des individus, ce sont des capacités à suivre les prescriptions sans prendre d'initiative. Donc on a une discipline de type mécanique et la visée, c'est d'obtenir, disons, de l'obéissance. Essentiellement, c'est ça qui fait la qualité du travail. Dans le travail flexible, la situation est très différente. Il s'agit là de faire coopérer des individus. Faire coopérer des individus, c'est tout à fait différent, la coopération ne pouvant se décréter, notamment. Et parce que le travail est de plus en plus organisé comme une relation de service, y compris au niveau des métiers d'ouvriers et d'employés, il faut posséder une forte équation personnelle qui consiste en quoi ? Qui consiste en une intelligence des relations sociales qui permet d'adopter une ligne de conduite personnelle. Par exemple, il suffit de penser à la, disons, au déclin du concept de qualification dans l'organisation scientifique du travail, l'organisation, disons, taylorienne, concept de qualification, donc qui qualifie le poste. On a un déplacement au profit du concept de compétence dans l'organisation flexible, qui est compétence qui n'est pas liée au poste, mais qui est liée à l'individu, et penser notamment à ce qu'on appelle les compétences non cognitives, dites sociales, émotionnelles, personnelles, etc. Et ce sont ces compétences qui conditionnent la possibilité d'adopter une ligne de conduite dans une organisation du travail où il faut faire coopérer les gens. La conséquence, c'est que la discipline change de sens, hein. C'est-à-dire que la discipline ne vise plus à obtenir, disons, de la docilité, de l'obéissance, mais plutôt de l'initiative individuelle. C'est donc des capacités à s'automotiver dans le travail ou pour retrouver un travail, hein. C'est-à-dire que la discipline tend à l'autodiscipline et on peut dire que dans la discipline traditionnelle mécanique, l'équation personnelle est faible. Dans l'autonomie, elle est forte. Elle est forte et ça se marque dans nos sociétés par la diffusion de formes de régulation des conduites qui sont à l'autonomie, ce que l'obéissance mécanique était à la discipline. C'est-à-dire là où il s'agissait auparavant de rendre les individus dociles, c'était à partir de là qu'on avait une efficacité dans le travail, il s'agit aujourd'hui de développer leur capacité d'agir par soi-même de façon appropriée. Alors, le préfixe « auto » et les capacités qui sont rapidement évoquées nous conduisent à la centralité de la santé mentale et à travers elle aux soucis collectifs contemporains pour les émotions, autrement dit, tout le vocabulaire du contrôle émotionnel et pulsionnel, de l'intelligence émotionnelle, des compétences de caractère, de savoir-être, des compétences psychosociales. Donc on a un vocabulaire extrêmement riche ou varié pour désigner la même chose. Et ces compétences font dans nos sociétés l'objet d'attentes très fortes, notamment pour l'éducation, et le besoin de ces compétences s'accroîtra à l'avenir. Je vais citer très rapidement un rapport de France Stratégie de 2016 qui s'appelle « Quelles priorités éducatives ?» qui souligne que les enseignements en France sont trop peu focalisés sur les compétences indispensables pour l'avenir. Je les cite. « Les besoins de l'économie et ceux des individus portent aujourd'hui notamment sur l'acquisition de compétences transversales telles que l'autonomie, la capacité à s'auto-former, à travailler en équipe et la créativité. » Donc tout ça, nous connaissons ce vocabulaire qui est très présent. « Ces besoins ne feront que croître dans les 10 années à venir, compte tenu entre autres de la révolution numérique. » Donc ces changements dans la manière d'agir, de vivre en société, forme le contexte dans lequel s'est développée une nouvelle morbidité qui, je le disais, ne relève plus seulement du domaine particulier de la maladie mentale, mais de celui plus général de la vie sociale. Cette nouvelle morbidité s'est progressivement instituée comme un enjeu majeur dans le travail, dans l'éducation ou dans la famille. Et les questions de santé mentale sont devenues, au-delà des pathologies psychiatriques, des soucis transversaux à toute la société parce que, au fond, les idéaux de l'autonomie et de la capacité mettent en relief une dimension émotionnelle qui était marginale quand on avait plutôt affaire à des formes de régulation des conduites faisant appel à la discipline mécanique. Et donc, tout ça c'est à travers le vocabulaire donc omniprésent de ces compétences émotionnelles, qui sont des compétences explicitement sociales, eh bien à travers ces compétences, la santé mentale apparaît comme la condition de la bonne socialisation de chacun. Et tout cela constitue une nouvelle donne. Alors, parallèlement, avec la généralisation de la prise en charge des troubles psychiatriques lourds en ambulatoire et la généralisation de l'idée que les personnes atteintes doivent vivre dans la société, nous avons assisté à une inflexion générale des idées et valeurs en matière de traitement et de prise en charge. Je ne sais si ce sont des mutations, en tout cas, ce sont des inflexions très nettes. Le changement de l'esprit du soin, je crois, est devenu éclatant avec la montée progressive en puissance de la réhabilitation et du rétablissement qui cristallise justement le développement des problématiques capacitaires dans nos sociétés. Problématiques capacitaires, c'est-à-dire des approches, donc en termes de prise en charge, traitement, etc., des approches fonctionnelles qui sont plus centrées sur les capacités relatives des personnes que sur leurs déficits ou leurs symptômes. Et donc là, il y a toute une nouvelle économie des rapports entre handicap, capacité et autonomie qui s'est progressivement instaurée dans nos sociétés. Alors, je cite très régulièrement, je vais le refaire encore une fois, les propos d'un patient atteint de, qui souffre de schizophrénie et qui me semble tout à fait lucide. Alors, après une séance de thérapie de remédiation cognitive, il déclare au psychologue qui est en charge du traitement « Avant, j'étais un handicapé, mais grâce à notre travail, j'espère devenir un handicapable. » Un handicapable. Je crois que là est formulée de façon, pourrait-on dire, follement lucide, une définition sociologique non seulement de la nouvelle figure de patient psychiatrique qui s'est progressivement instituée avec la généralisation de l'ambulatoire, mais encore, au-delà de la psychiatrie, de la nouvelle figure d'individu qui s'est également instituée avec la généralisation des idées et valeurs de l'autonomie. Hier, handicap et capacité étaient opposés, donc la capacité étant du côté de l'autonomie. Aujourd'hui, ils se combinent dans une problématique des degrés de l'autonomie, mais aussi de la diversité de ses formes. C'est-à-dire que l'autonomie est évidemment un concept relatif. Handicapé était un état, handicapable est un itinéraire de transformation personnelle face au mal qui affecte le sujet. Et dans ce cadre, les thérapies sont organisées de telle sorte qu'elles placent dans la plus large mesure possible la santé et la socialité de l'individu entre ses propres mains. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'autonomie aussi n'est pas une qualité des personnes. Hein. Elle est dépendante de la situation qui favorise ou non le développement d'une capacité, y compris quand ce développement apparaît minimal et que se pose la question de ce sur quoi on peut jouer sur les patients qui sont les plus déficitaires. Concernant donc encore les troubles psychotiques, la généralisation de l'ambulatoire se caractérise donc par la montée du social. Je mets des guillemets parce qu'il faudrait rentrer dans la définition. Montée du social à partir des années 80, c'est-à-dire à partir du moment où s'accélère le virage vers l'ambulatoire, la déshospitalisation, ce qu'on appelle en France la désinstitutionnalisation. Donc à partir des années 80, le diagnostic, ça se marque par toutes sortes de choses, le diagnostic fonctionnel commence à prendre une importance majeure, tout un tissu institutionnel se développe qui donne sa forme et son contenu au médico-social. Dans le désordre, donc ascension bien sûr de la réhabilitation et du rétablissement, appartement accompagné, équipe mobile, psychiatrie précarité, permanence d'accès aux soins de santé, etc. Et puis à partir des années 2000, on a une notable abondance législative, la loi du 2 janvier 2002 qui rénove l'action médicale et sociale et qui institue le projet de vie à côté du projet de soins, donc un concept qui est devenu fondamental dans les pratiques, la loi du 4 mars 2002 relatif aux droits des malades, la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits des personnes handicapées. Bon, je crois qu'on a, je vais défiler à peu près l'ensemble, hein. Le logement devient une des nouvelles scènes où le soin et l'accompagnement, du soin et de l'accompagnement, pardon, avec la création des SAVS et des SAMSA. Le handicap psychique, quant à lui, redéfinit un certain nombre de caractéristiques de la pathologie en fonction de ses conséquences, ce qui renforce la référence à un diagnostic fonctionnel. Le couplage du sanitaire et du social constitue désormais le nouveau cours avec le développement du médico-social et du social. Le concept d'accompagnement, qui est un concept qui est absolument partout, marque ce nouveau cours. C'est-à-dire, si l'on soignait dans le sanitaire et que l'on accompagnait dans le médico-social et le social, désormais, soigner et accompagner s'entrelacent de multiples manières selon les équipes, les contextes locaux et les moments. Tout le monde s'accorde pour dire que l'organisation de l'action, c'est-à-dire l'accompagnement, soit centré sur le parcours individuel et sur les besoins des personnes. Donc, de telles pratiques impliquent nécessairement une organisation sociale qui est centrée sur l'individu, sur ses besoins certes, mais aussi, et ça c'est relativement plus nouveau, sur ses valeurs et ses choix. Le patient rétabli est un patient capable au sens où il a peut-être des symptômes, mais il peut. Il peut quoi ? Il peut prendre selon des degrés et des formes extrêmement variables la responsabilité de sa vie. Concernant les personnes, je vais terminer sur ce point avant de conclure, on peut reprendre le mot d'ordre des associations d'usagers, rien à propos de nous, sans nous. Alors, ça pose des questions. Est-ce que les usagers ont une place suffisante dans les décisions qui les concernent au niveau de la politique nationale, régionale, locale ? Est-ce qu'ils ont une place suffisante dans l'organisation et le fonctionnement des services, dans leur évaluation, ainsi que dans les soins et l'accompagnement ? En tout cas, il y a de nombreux travaux, on le sait, qui montrent que la prise en compte de la parole des usagers, notamment, je pense à pas mal de travaux britanniques, prise en compte de la parole des usagers constitue un levier de changement considérable des pratiques. Elle permet d'augmenter les compétences des professionnels, mais aussi de diminuer l'usage des services par les usagers, et donc de réduire aussi la charge des professionnels. Donc, l'intégration d'usagers dans la formation des professionnels, dans les équipes de soins et d'accompagnement, dans la recherche sur les services de santé mentale, tout ça est encore, nous le savons, très embryonnaire en France et pourrait être développé. La France n'est pas extrêmement dynamique en matière de démocratie sanitaire et cela nuit peut-être à la démocratie, mais ça nuit aussi à l'efficacité de l'action pour les personnes vivant avec des troubles psychiatriques. Cette orientation individualiste capacitaire que j'évoque tout au long de cet exposé suppose également de pouvoir assurer une continuité du parcours, encore un mot-clé, et la question de la coordination, mot-clé encore, des professionnels devient essentielle. On a de multiples rapports sur ces thèmes depuis le début de la décennie. Le caractère multidimensionnel des handicaps qui sont associés aux troubles mentaux exige une telle articulation, notamment pour les personnes en situation de précarité qui cumulent les problèmes qui traversent l'ensemble de ces domaines. Et il faut noter que ces populations sont particulièrement vulnérables à la segmentation des politiques publiques parce qu'elles cumulent un maximum de problèmes sociaux, administratifs et de santé. Pour conclure, sur les 15 dernières années, nous avons assisté en santé mentale à une multitude d'initiatives prises pour agir par les professionnels de santé, du social, de l'éducation. Le rapport de Michel Lafourcade en mentionne un certain nombre à titre d'exemple et peut permettre de se faire une idée, disons, d'un dynamisme d'innovation de la part des acteurs. Mais en même temps, les métiers, les pratiques ont connu des recompositions rudes, parfois dramatiques, ont suscité toutes sortes de tensions et de frustrations, et ces tensions et ces frustrations appellent une clarification ou des clarifications. Ces clarifications me semblent d'autant plus nécessaires que ces tensions et frustrations ne sont pas spécifiques au sujet qui nous réunit ici, c'est-à-dire la psychiatrie et la santé mentale. Elles sont générales dans la société française. Qu'il s'agisse du patient, par exemple, du patient psychiatrique en particulier, ou de l'actif en général, je pense aux multiples débats, manifestations qui ont accompagné le vote de la loi El Khomri, je pense à la politique du travail de la nouvelle majorité, donc c'est l'actif en général, qu'il s'agisse du patient psychiatrique en particulier, de l'actif en général, le grand enjeu, c'est la façon dont on protège les gens aujourd'hui, c'est-à-dire à l'âge de la flexibilité, de la mondialisation, de l'autonomie, parce que nos sociétés sont passées plus ou moins confusément, avec pas mal de tensions et de douleurs, d'un système d'action où l'on soigne, prend en charge, traite, accompagne selon des critères de statut, par exemple dans nos domaines sanitaires, médico-social, social, donc où on protège par la forme sociale du statut, un système d'action qui se centre sur la sécurisation des trajectoires ou des parcours individuels de vie par la forme sociale de l'accompagnement. Donc qui protège par la forme sociale de l'accompagnement, ce qui implique en particulier d'être particulièrement soucieux des transitions. Autrement dit, nous sommes totalement entrés dans une société où il s'agit de développer des formes d'organisation sociale qui rendent l'individu capable de se protéger par lui-même dans la plus large mesure possible. Je vous remercie.
Merci beaucoup de cet éclairage. Je crois que la fonction du sociologue, c'est de pouvoir faire ce que vous venez de faire et de mettre en place les enjeux et ces mutations. Et je pense que c'est extrêmement éclairant avec cette notion justement de l'aspect, la dimension émotionnelle, la prise en compte et que vous développiez. Et je trouve que l'exemple du travail est particulièrement bien choisi. Merci beaucoup. Donc, remarques, questions à chaud. Alors, moi, je vais faire une remarque. Le sociologue n'est pas un prescripteur. Il décrit et aide à comprendre. Un Premier ministre avait dit expliquer, c'est commencer à excuser. C'était une grosse bêtise qu'il avait pu dire, enfin, à mon avis, mais il n'est plus Premier ministre. Mais je trouve que c'est extrêmement important. Mais en même temps, on peut avoir l'impression que ce sont des mécanismes qui se mettent en place hein, avec cette évolution que vous décrivez, notamment dans votre conclusion, entre ces aspects dont passe de la logique de statut à cette logique individuelle de chacun étant en charge d'eux.
Individuel, mais social. Il ne faut pas tomber dans le piège l'opposition de l'individu et social, c'est-à-dire il s'agit de développer des formes sociales.
Tout à fait.
C'est une orientation sociale individualiste, en quelque sorte.
J'ai bien saisi cela, mais en même temps, on voit bien que cette mutation de l'organisation, elle passe par cette modification, notamment de la capacité de modification de l'organisation sociale et de la place des statuts, par exemple, et c'est quand même un enjeu qui n'est pas du tout abordé dans toute la logique, par exemple, des mutations qui sont en œuvre et le plan, les plans successifs, qui c'est pas du tout à appréhender. C'est pas quelque chose qui est appréhendé. Par exemple, la notion de statut est jamais quelque chose, alors que c'est un élément qu'on peut considérer comme clé, est jamais quelque chose qui est appréhendé en tant que tel dans les propositions de modification des dispositifs. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui devrait... Enfin, comment vous analysez
J'ai l'impression quand même que c'est une préoccupation extrêmement forte, ces questions de statut, ces questions de transition entre le sanitaire, le médico-social, le social.
C'est une préoccupation.
Voilà. Et donc, c'est pour ça que je parle de tension, mais il me semble, oui, qu'il y a une réflexion pour dépasser les cloisonnements qui existent et en même temps une confrontation à une lourdeur des cloisonnements qui est évidemment extrêmement forte parce que on passe pas au parcours des cloisonnements, etc., comme ça. Il y a de multiples obstacles, c'est très compliqué et c'est très, très exigeant.
Merci beaucoup. Non, je suis tout à fait d'accord. C'est une préoccupation. Mais la question, c'est que j'ai le sentiment que dans la manière dont sont pensées les réformes, on va dire ça comme ça, cette préoccupation ne retrouve pas un écho, en tout cas des actions qui permettent d'essayer d'amorcer les changements que vous évoquez, qui sont extrêmement lourds.
Je pense par exemple au projet territorial de santé mentale. Voilà, ce sont des choses, tout ce qu'il y a autour de ça, ce sont des choses qui vont vers une évolution, je pense, capacitaire.
Merci beaucoup en tout cas. Ah, si quand même, attendez, hop, il n'y avait pas eu de remarques ou de questions. Donc, j'ai mangé un peu de temps, j'en suis navré, donc question courte, réponse courte. Allez-y. Désolé, il se passe un truc que je ne comprends pas, mais je vous propose d'essayer de faire, je sais pas, de parler fort.
Vous m'entendez quand je parle ? Et c'est à M. Renberg que je parle. Je ne m'entends pas forcément. Ça y est. Merci beaucoup à vous de votre présentation. Si je ne m'arrête qu'à la conclusion, je comprends qu'on est là dans une tendance de la société qui consiste à renvoyer l'individu à sa capacité à s'autonomiser et dans laquelle nous serions dans l'accompagnement. Si j'ai bien suivi ce qu'on m'a appris sur la remédiation cognitive, au début du programme, il y a des tests qui montrent si le patient est en capacité ou non de participer au programme. Et du coup, j'ai une réflexion qui me renvoie au gilet jaune. Qu'est-ce que l'on fait de tous ceux qui ne sont pas en capacité de participer à ce programme d'autonomisation pour lesquels nous serions dans l'accompagnement ?
Le point, parce que c'est vrai qu'il y a une ambiguïté. Le point, c'est qu'il faut comprendre que la capacité, l'autonomie, ce sont des concepts relatifs. C'est-à-dire, il n'y a pas les individus, où ils sont capables, où ils sont incapables. L'accent que j'ai essayé de porter, c'est justement sur les formes sociales, n'est-ce pas, qui permettent à l'individu de développer des capacités. Et ces questions se posent, y compris, je l'ai évoqué à toute vitesse, avec les patients les plus déficitaires. Bien entendu, les choses sont relatives et ce qui peut être gagné sur un patient de ce type ne sera pas évidemment du même ordre que ce qui est gagné sur un patient d'un autre type, pour ne pas rentrer dans les détails. Donc, il faut voir les choses de manière relative en termes de degré de l'autonomie, c'est pas ou autonome ou pas autonome, et en termes aussi de diversité de ses formes. Parce que l'autonomie, elle n'est pas, si je puis dire, dans la tête des gens, elle est dans le système d'action, hein, c'est-à-dire le système qui agit sur les individus pour réguler leur conduite, les soigner, etc.
Merci beaucoup. Merci. Cette précision importante.